BPM. Élections législatives 2022.
Et bonjour à tous, si vous venez de nous rejoindre sur BPM, le premier tour des élections législatives aura lieu le dimanche 12 juin et le second tour le dimanche 19 juin. À cette occasion, BPM vous propose des émissions spéciales où nous recevons les 10 candidats sur la 5e circonscription de l'Eure. Et aujourd'hui, nous recevons Timothée Houssin, candidat donc de la 5e circonscription de l'Eure pour le Rassemblement National. Timothée Houssin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Tout d'abord, vous avez 33 ans, vous êtes assistant parlementaire auprès de la députée européenne Annika Bruna. Vous êtes également conseiller régional de Normandie ainsi que le responsable départemental de l'Eure du Rassemblement National. Et donc vous êtes candidat cette année pour la 5e circonscription de l'Eure et votre suppléante se nomme Laura Ponty. Durant cette émission, nous allons passer en revue votre projet pour la circonscription, vos propositions et priorités pour les 5 prochaines années. Alors tout d'abord, première question générique, pourquoi avez-vous décidé de vous présenter ?
Bah écoutez, on est dans une situation où Emmanuel Macron a fait un premier mandat qui, pour nous, a abîmé la France. Vous le savez, nous sommes en désaccord avec la majorité des politiques qu'il mène et nous pensons incarner une alternative à ces politiques. D'ailleurs, les Français l'ont confirmé à l'occasion des élections présidentielles. Ils ont confirmé la fin du clivage gauche-droite et la continuité d'un nouveau clivage qui oppose en fait les patriotes et mondialistes. Qu'on a vu d'ailleurs au second tour de l'élection présidentielle entrant à nouveau un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et nous constatons qu'Emmanuel Macron a été relativement mal réélu au vu du nombre de personnes qui ont réellement porté leur suffrage sur lui au second tour, parce qu'il y avait des gens évidemment qui ont voté pour Marine, d'autres qui se sont abstenus, et on a une majorité de Français qui ne souhaitent pas forcément qu'il ait une majorité. Or, nous pensons que s'il obtient une majorité pour ce deuxième mandat à l'Assemblée nationale, étant donné qu'il n'aura pas à se représenter devant les Français à l'issue de ce mandat, il aura les mains complètement libres pour mener une politique que nous dénonçons. Et nous estimons qu'en nous présentant partout aux élections législatives, nous pouvons permettre une certaine alternance, qu'il y ait une opposition constructive à l'Assemblée nationale, qu'il y ait un contrôle de l'opposition et qu'Emmanuel Macron, en fait, n'ait pas les pleins pouvoirs durant les 5 jeunes années à dire. Donc nous, la raison pour laquelle nous présentons, c'est éviter qu'Emmanuel Macron ait les pleins pouvoirs. Pour ma part, pourquoi est-ce que moi-même je suis candidat ? Parce que je suis maintenant impliqué en politique depuis l'âge de mes 18 ans, donc ça fait 15 ans. C'est ma troisième candidature aux élections législatives. Au niveau local, je suis conseiller régional depuis maintenant bientôt 7 ans, donc je connais aussi bien les problématiques de notre territoire. Et puis à titre personnel, j'ai été pendant de nombreuses années assistant parlementaire, ce qui me permet de bien connaître aussi le fonctionnement des différentes assemblées, y compris l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'à la fois sur le terrain et à la fois en tant qu'élu à l'Assemblée, je pourrais avoir un rôle d'élu expérimenté qui pourra défendre les habitants de la circonscription.
Alors vous en avez parlé dans la réponse déjà, mais il y a de cela quelques semaines, les Français sont allés voter lors des dernières élections présidentielles. 58,55% des votants ont voté pour Emmanuel Macron lors de ce second tour contre 41,45% pour Marine Le Pen. Qu'avez-vous pensé de ce résultat ?
Comme je viens de le dire, ça confirme la fin pour moi du clivage gauche-droite avec deux blocs qui sont assez différents entre d'un côté un bloc mondialiste et un bloc plutôt patriote, d'un côté Emmanuel Macron, de l'autre côté Marine Le Pen. Ça montre que nous sommes la principale opposition à la politique que mène Emmanuel Macron, parce que nous sommes la seule opposition complète. Nous sommes en désaccord avec lui sur un nombre de sujets, sur le sujet des retraites dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure, sur le sujet depuis des années de l'immigration et de l'insécurité contre lesquels rien n'est fait, sur la défense des zones rurales qui sont souvent délaissées par rapport aux zones les plus urbaines, sur le maintien d'un certain nombre de services publics. Voilà tout un tas de sujets sur lesquels nous proposons quelque chose de différent et les Français l'ont reconnu. Qu'est-ce qu'on observe par ailleurs ? C'est qu'Emmanuel Macron a quand même été réélu à l'issue de ce scrutin, mais finalement pas si bien réélu. Il n'est pas acté qu'il obtienne une majorité à l'Assemblée nationale. Et puis Marine Le Pen, elle, continue sa progression. Nous faisions 15% en 2012, nous faisions 33% en 2017, nous avons fait 42% en 2022. Donc nous progressons dans l'opinion publique, nous progressons dans les urnes et nous pensons que si on continue comme ça, nous accéderons au pouvoir en 2027.
Et puis au niveau local, lors du second tour sur la 5e circonscription du département, donc ici, le résultat était différent sur ce second tour puisque Marine Le Pen est ressortie en tête avec 51,8% des votants et donc Emmanuel Macron avec 48,2%. J'imagine qu'il y a une part de satisfaction de ce résultat au niveau local.
Oui, tout à fait, que ça soit dans la circonscription ou dans le département, Marine Le Pen arrive en tête dans cette circonscription, c'est le cas de 4 autres circonscriptions sur 5 dans le département, et puis elle arrive en tête dans de nombreux endroits. Elle arrive en tête dans 30 départements de France, dans à peu près 150 circonscriptions, et donc c'est sur ces bases que nous fondons les espoirs dont nous venons de parler. Aujourd'hui, malheureusement, la proportionnelle n'existe pas, ce qui fait que les différentes oppositions sont souvent mal représentées à l'Assemblée nationale. Cependant, là où auparavant nos adversaires pouvaient dire il y a un plafond de verre, le Rassemblement national n'est pas capable de gagner une élection en duel au second tour et donc il n'est pas capable de remporter des législatives, nous avons pu démontrer à l'occasion de ces élections présidentielles l'inverse, c'est-à-dire dans un territoire comme le nôtre, nous sommes arrivés en tête, nous sommes en capacité de gagner. Ce que nous voulons dire aux électeurs, c'est simplement, si vous retournez à nouveau aux urnes les 12 et 19 juin, eh ben vous pourrez obtenir une majorité et vos idées pourront être défendues à l'Assemblée nationale. Donc il est important que vous vous y rendiez.
Justement, la transition est toute trouvée, puisque le sujet qui vient forcément quand on parle d'élection, c'est celui de l'abstentionnisme. Vous n'avez pas peur, vous, que ce taux d'abstention soit de nouveau élevé les 12 et 19?
Alors, j'ai à la fois, je dirais, de la peur et de l'espoir. J'ai de la peur pour une raison simple, c'est qu'historiquement, effectivement, si on regarde les statistiques, les gens se déplacent nettement moins aux élections législatives qu'aux élections présidentielles, souvent parce qu'à mon avis, ils les considèrent comme vraiment dans la foulée des élections présidentielles et comme acquises. Ils considèrent, ça a quasiment toujours été le cas, que le président de la République qui vient d'être élu obtient une majorité à l'Assemblée nationale et que par conséquent, il y a une certaine fatalité. Or, aujourd'hui, les sondages nous le montrent, Emmanuel Macron est loin d'être sûr de pouvoir obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Et puis, il y a un vrai débat dans les médias nationaux, dans les médias locaux, de savoir si oui ou non il va obtenir cette majorité. Il y a plusieurs pôles d'opposition qui sont puissants, qui peuvent faire rentrer un nombre significatif de députés à l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'il y a rarement eu un tel enjeu sur les élections législatives. Nous allons nous accorder justement dans cette campagne à aller à la rencontre des gens, aller à la rencontre notamment des classes populaires qui bien souvent s'abstiennent, à la rencontre des habitants de la ruralité qui sont parfois les plus éloignés des institutions et qui ne se déplacent pas toujours non plus aux urnes, pour leur dire cette fois-ci, si vous y allez, vous avez de réelles chances de l'emporter, donc il est important que vous y allez. N'oubliez pas que ce sont les députés qui font les lois, ce sont eux qui prennent les décisions au final.
Passons à un autre sujet. Il y a une question qui revient particulièrement en ce moment partout en France. C'est celle autour du pouvoir d'achat qui baisse pour la plupart des Français. Que pourrez-vous faire pour améliorer ce pouvoir d'achat?
Mais vous avez tout à fait raison de dire que le pouvoir d'achat est en berne. D'ailleurs, rappelons-nous bien que la seule candidate à l'élection présidentielle qui a parlé, reparlé et fait de nombreuses propositions sur ce sujet du pouvoir d'achat, qui en avait fait un axe de campagne, alors même qu'un certain nombre de ses adversaires prenaient ça avec un certain mépris, celle qui avait fait un axe de campagne de l'importance du pouvoir d'achat, notamment pour les ménages les plus modestes, c'était Marine Le Pen. Donc c'est un sujet sur lequel nous sommes effectivement très présents. Le pouvoir d'achat est en berne, on fait face à une inflation qui est importante. D'ailleurs, on a, je crois, dans la presse de ce matin, des informations sur les conséquences pour les ménages. Ça représenterait à peu près un surcoût de 90 euros par mois et par ménage. Donc c'est un chiffre qui est extrêmement conséquent, y compris d'ailleurs pour les personnes qui travaillent. Et il faut impérativement offrir des possibilités aux Français pour qu'ils puissent continuer à boucler les fins de mois. Et nous avons un certain nombre de propositions concrètes que nous pourrons porter à l'Assemblée nationale si nous sommes élus, notamment de baisse de TVA ou de taxes sur un certain nombre de produits de première nécessité, notamment un certain nombre de produits alimentaires dont on ne peut pas se passer et sur lesquels une baisse des taxes permettrait aux Français de regagner un petit peu d'air. Et puis on voit que dans le budget des Français, ce qui pèse particulièrement aussi, c'est le budget lié à l'énergie, que ce soit le chauffage, l'électricité, mais aussi beaucoup dans des zones rurales comme la nôtre, le carburant, parce qu'on peut pas se passer souvent de carburant pour aller travailler, pour conduire les enfants à l'école, pour les déplacements personnels. Donc ça pèse énormément dans le budget. Et là aussi, nous avons l'intention de faire baisser les taxes sur le carburant, qui représente en fait la majeure partie de ce que les Français payent à la pompe. Emmanuel Macron, lui, a fait un petit chèque, on vous remboursait symboliquement quelques centimes, et ça a duré quelques semaines. Nous voulons des mesures pérennes. Nous pensons qu'avec le nucléaire et en arrêtant notamment le développement d'énergies renouvelables, qui sont beaucoup plus chères et qui en plus dégradent nos paysages comme l'éolien, nous pouvons maintenir les prix de l'électricité à un niveau raisonnable, et puis on peut faire baisser ces taxes sur qui pèsent très lourdement sur le carburant. Ça n'annule pas la nécessité de peut-être changer à long terme de modèle et de plus forcément se déplacer avec des véhicules à essence ou gasoil, mais laissons la possibilité aux Français de changer. Et à court terme, il faut faire baisser de façon pérenne ces prix sur le carburant, parce que ce carburant est indispensable aux Français pour leurs déplacements personnels, mais aussi surtout pour leurs déplacements professionnels.
Il y a un autre débat très important en ce moment, celui de la réforme de la retraite à 65 ans. Quelle est votre position, vous, au sein du Rassemblement national ?
Bah vous le savez, nous y sommes opposés. Déjà, nous, ce que nous regardons avant tout, c'est les chiffres du chômage des plus de 60 ans, qui est en fait déjà extrêmement important. C'est-à-dire que si vous perdez votre emploi après 55 ans, il est bien souvent très difficile d'en retrouver. Et donc... il y a un peu une utopie de dire que les gens vont travailler jusqu'à 65 ans, puisque dans les faits, énormément de seniors sont déjà en difficulté à avoir un emploi. Et puis, il y a différents types d'emplois. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler pour financer mes études comme manutentionnaire dans des usines. Moi, j'invite les gens du gouvernement à aller aussi travailler dans des usines. Quand vous faites un travail qui est pénible, quand vous travaillez sur la voirie, dans le BTP, enfin voilà, il y a tout un tas de professions où il n'est pas forcément possible de continuer à travailler après 60 ans. Or, bien souvent, il y a quand même une corrélation entre ces professions et l'âge auquel laquelle on commence à travailler. Moi, par exemple, j'ai plutôt un statut de cadre, j'ai commencé à travailler plutôt vers mes 24-25 ans, donc évidemment, je partirai en retraite plus tard, mais nous pensons qu'on peut continuer à faire partir en retraite les gens qui ont 60 ans, à condition qu'ils aient travaillé 40 annuités. Et nous, c'est vraiment ce principe de 40 annuités qui compte réellement pour nous, c'est-à-dire qu'il faut que les personnes cotisent 40 annuités avant de partir en retraite. À partir du moment où elles ont commencé à 20 ans ou avant 20 ans, si elles ont leurs 40 annuités, nous pensons qu'elles peuvent continuer à partir en retraite à 60 ans. Ça compensera les efforts qu'elles ont faits dans leur jeunesse. Et ça, elles ont cotisé durant tout ce temps-là pour leur retraite, et puis ça permettra aux personnes qui ont une certaine pénibilité de partir à un âge décent à la retraite. D'autant que l'espérance de vie, d'ailleurs, n'est pas du tout la même entre un cadre et un ouvrier, par exemple. C'est-à-dire que les personnes qui font ces travaux souvent les plus pénibles ont une espérance de vie, et donc une espérance de vie à la retraite qui est moindre que les autres.
Passons maintenant au programme que vous portez d'une manière globale avec le Rassemblement national. Dans votre profession de foi, vous dites que vous pouvez empêcher notamment la submersion migratoire en France. Comment est-ce possible ?
Oui, le Rassemblement national est un parti qui est présent sur l'ensemble des sujets, mais depuis toujours, effectivement, nous pensons que cette immigration massive a un certain nombre d'effets néfastes que les Français constatent. Nous constatons également l'augmentation de l'insécurité. Je pense qu'ici, dans la circonscription, il y a un certain nombre d'habitants qui sont venus de quelques kilomètres d'ici en Île-de-France, parfois s'installer, puisqu'ils ont fui un climat d'immigration importante et parfois d'insécurité. Or, ils aspirent à une certaine tranquillité, comme c'est le cas d'une majorité de Français, et on constate que l'immigration massive continue, que le gouvernement en place, dans son dernier mandat, l'a fait perdurer, qu'il n'a pas l'intention de changer cette politique pour les 5 prochaines années. Et l'insécurité, elle, continue également. Il y a une certaine impunité, notamment des délinquants récidivistes. On a vu cette semaine encore l'affaire du Stade de France avec des dizaines de délinquants qui s'attaquent, bon, cette fois-ci, à des touristes étrangers venus dans le cadre d'une manifestation sportive. Mais voilà, il y a un climat d'insécurité subi depuis des années. Nous pensons qu'il faut renforcer l'échelle des sanctions, qu'il faut davantage sanctionner les multirécidivistes, parce que bien souvent, ce sont les mêmes personnes qui sont arrêtées un certain nombre de fois. Et puis, nous pensons que pour des raisons notamment économiques, nous ne pouvons plus continuer à accueillir autant d'immigration que nous en accueillons avant. Et puis, il y a une vraie nécessité d'assimiler les populations que l'on a fait venir par le passé. Donc oui, nous défendrons à l'Assemblée nationale, si nous sommes élus, une baisse drastique de l'immigration et des mesures fortes contre l'insécurité et contre la délinquance.
L'objectif, c'est véritablement de rétablir l'ordre.
C'est de rétablir l'ordre, tout à fait.
Autre point important que l'on retrouve sur votre profession de foi, c'est celui des déserts médicaux, qui est une véritable problématique aussi sur ce territoire de la 5e circonscription. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour endiguer un petit peu ce problème des déserts médicaux ?
Alors, ce problème des déserts médicaux, il existe dans l'Eure depuis bien longtemps, puisque l'Eure est le dernier département de France en nombre de médecins pour habitants. C'est un sujet qu'on évoque à chaque élection quasiment, et malheureusement, les personnes qui sont au pouvoir au niveau national, mais aussi au niveau local, n'ont jamais réussi à faire quoi que ce soit pour finalement endiguer ce phénomène, alors même que nous sommes un département assez proche de l'Île-de-France, de la métropole rouennaise, enfin qui est quand même attractif. On peut comprendre que la Lozère ait des difficultés à avoir des médecins, on a beaucoup plus de difficultés à comprendre que l'heure en est. Donc nous, ce que nous proposons, c'est déjà ce que nous avions proposé pendant des décennies, en fait, l'augmentation du numerus clausus, ce qui a fini par être fait à la marge, mais ça fait déjà des années et des décennies que le Rassemblement national alertait sur le fait qu'on ne formait pas assez de médecins. Donc nous pensons qu'ils font former toujours davantage de médecins, et puis nous souhaiterions faire des propositions de loi dans le sens que nous pourrions, en fait, au niveau de l'État, participer à une sorte de bourse d'études pour des personnes qui sont en études de médecine, ce qui permettrait de prendre en charge, notamment pour des gens modestes, les frais liés à la fois à leurs études, mais aussi potentiellement à une partie de leur logement ou de leurs frais de vie, pour qu'ils puissent poursuivre ces études qui sont assez longues, à condition qu'en contrepartie, ils s'engagent à venir travailler au début de leur exercice un certain nombre d'années sur le territoire où il manque des médecins. Et puis, on compte sur un effet, c'est-à-dire que ces jeunes médecins diplômés viennent s'installer sur un territoire donné, par exemple pour 5 ans, et puis ils vont se faire une clientèle, ils vont rencontrer des personnes, ils vont faire leur vie sur ce territoire, et ils seront probablement amenés à y rester. Voilà pour nous une possibilité qui permettrait de faire venir des médecins de façon pérenne et durable sur le secteur.
À travers ce sujet, vous souhaitez donc empêcher le sacrifice du territoire, le démantèlement des services publics et la fermeture des lits d'hôpitaux.
Oui, tout à fait. Nous pensons que les services publics doivent être maintenus, en particulier dans la ruralité où ils ont tendance à souvent disparaître. Nous rappelons quand même aussi un grand point, c'est-à-dire que les habitants de la ruralité payent finalement les mêmes impôts que les autres et qu'il n'est pas tout à fait normal qu'ils bénéficient de toujours moins de services et notamment de moins de services publics. Donc nous pensons qu'il faut maintenir les services publics dans la ruralité, notamment par le biais de maisons des services publics. Et puis, tout à fait, dans le domaine de la santé, nous pensons que les budgets doivent être supérieurs, qu'il faut réintégrer les 15 000 soignants qui ont été éloignés puisqu'ils n'étaient pas vaccinés contre le Covid, qu'il faut donner davantage de moyens là aussi pour recruter, pour maintenir un système de santé qui soit de qualité en France.
Passons à un autre sujet, l'agriculture. Nous sommes situés dans un territoire très rural, donc c'est un sujet qui compte ici. Comment est-ce que vous comptez aider, vous, les agriculteurs qui se retrouvent aujourd'hui en difficulté?
Déjà, il faut qu'ils obtiennent des prix importants pour leur production. Donc nous pensons qu'il faut qu'ils aient une meilleure rémunération sur les produits qu'ils vendent, là où parfois la grande distribution obtient beaucoup. On pourrait encadrer un petit peu tout cela. Et puis, il y a une menace pour notre agriculture, que ça soit notamment sur la viande et les produits issus de l'élevage, mais aussi sur les différentes plantations. C'est parfois la concurrence déloyale qui leur est faite de plus en plus par des pays à bas coût et notamment par des traités de libre-échange que nous faisons avec des pays d'Amérique latine ou des pays ailleurs en Europe qui parviennent à produire dans des conditions environnementales bien moindres et dans des conditions sociales qui sont également moindres. Et donc, ils produisent à bas coût des produits de moins bonne qualité. Nous pensons que nous pouvons mettre un certain nombre notamment de barrières douanières contre certains de ces produits et puis mieux informer les consommateurs, puisque lorsque vous allez au supermarché, notamment sur les produits transformés, vous vous apercevez que vous êtes bien incapable souvent de savoir d'où proviennent réellement les produits que vous mangez. Et nous pensons qu'en informant mieux le consommateur, il sera enclin à manger davantage français et probablement que cela favorisera nos agriculteurs.
Pour conclure cette émission, on a un peu plus d'une minute devant nous. C'est un thème autour de l'intérêt des Français envers la politique. Vous avez une volonté de redonner confiance aux habitants du territoire envers la politique à travers un référendum d'initiative citoyenne. Comment est-ce que cela se traduira en une minute à peu près?
Alors, tout simplement, nous pensons que, notamment par le biais de cette Assemblée nationale qui n'est pas à la proportionnelle, les Français sont parfois mal représentés. Parfois, on s'en est aperçu dans l'élection intermédiaire. Ils ne vont pas voter puisqu'ils se disent que finalement leur vote n'est pas réellement pris en compte, que ça ne change pas réellement les choses. Puis on a eu la crise des Gilets jaunes, on a aussi vu plein de Français qui se disaient nous, on aimerait quand même bien participer à notre façon au débat, on aimerait bien être peut-être consulté de façon plus concrète. Donc nous pensons qu'à partir du moment où un certain nombre de citoyens, quelques centaines de milliers par exemple inscrits sur les listes électorales, souhaite qu'une question soit tranchée par référendum, cette question puisse être portée à partir du moment où ils s'inscriraient sur un site entre guillemets officiel pour qu'on puisse les décompter. et que ce référendum puisse être porté aux voix de l'ensemble des Français en même temps qu'une autre élection pour éviter des surcoûts. C'est-à-dire que vous iriez par exemple voter aux législatives et en même temps vous seriez amené à vous proposer sur telle ou telle question qui a été posée par référendum. Donc ça, c'est les questions qui seraient posées par référendum, vous l'avez dit, d'initiative citoyenne à l'initiative des citoyens, mais nous pensons aussi que le gouvernement doit davantage consulter les Français par référendum.
Timothée Houssin, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Cette émission sera rediffusée à 13h et à 18h30 et à retrouver en podcast sur bpmlaradio.com. Demain à 7h30, nous recevrons Pierre-Yves Jourdain, candidat pour NUPES. Et puis à 8h30, François Ozillot pour Ensemble répondra à nos questions. Passez une excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.
BPM, élections législatives 2022.